ouverture de plâtrier entre les deux défenseurs centraux. Je les ai tournés dans le dos. Je contrôle de la poitrine et eux, ils viennent pour récupérer la balle. Je passe au-dessus. Je passe au-dessus des deux défenseurs. J'accélère. Et sans que le ballon pousse le sol, je frappe au but et je marque. Je suis rentré dans le vestiaire. Il y avait tous les casiers où il y avait un crédit. Garinche, Pelé, quand on se retrouve, après le match. En plus, on a eu des Brésiliens qui sont d'une chaleur extraordinaire. Paolo César qui est venu nous chercher à l'hôtel. On a passé une super soirée ensemble.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Légendes. Il fait partie de ces inoubliables joueurs de l'équipe de France, estampillé Michel Hidalgo, qui a joué l'étouffante tragédie de la demi-finale de Coupe du Monde 1982 à Séville. Il compte 52 sélections en équipe de France, avec 13 buts, a remporté l'Euro en 84 et a même participé au Mondial argentin de 1978. Il a retourné à lui seul la Lazio de Rome à Bollard un soir de novembre 77. Il a joué entre autres au Racing Club de Strasbourg, qu'il a même entraîné, à Aston Villa, à Bruges, à l'OM, à Stuttgart et même à Galatasaray. Nos amis turcs le connaissent d'ailleurs sous le nom de Dündar Cize, à une époque où le footballeur français s'exportait aussi mal que la gastronomie anglaise. Si Bob Moran était un joueur de foot, nul doute qu'il porterait le numéro 6. Baroudeur, buteur, pionnier, la 6e avenue de New York porte son nom. Notre invité aujourd'hui, c'est
Didier Six, bien sûr. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous, Didier, aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Ce qui nous importe, soit comme à la maison dans cette interview, dans cet entretien, que tu te sentes comme chez toi et surtout que tu partages avec nous les anecdotes de ta carrière.
D'accord, pas de souci.
Merci d'être venu. On est vraiment, vraiment content de t'avoir sur le podcast des Légendes. Je propose qu'on commence sans transition. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en or? Quand est-ce que tu as su que tu avais quelque chose de spécial? Est-ce que tu étais connu dans la région comme la future petite star?
Non, on peut pas dire ça. Moi, je suis mon père était professionnel à Lille, donc j'ai été béni là-dedans depuis le tout jeune âge. Et suite à ça, je suis passé dans les clubs amateurs. Et des clubs amateurs, je suis passé dans les sections régionales. Je suis rentré dans l'école à Valenciennes. C'était pas des centres de formation, c'était l'équipe de Valenciennes. Et je suis arrivé à 15 ans et demi au mois de juin à Valenciennes où j'ai débuté le premier entraînement. Petit à petit, j'ai passé les étapes. J'étais dans le titre de coach junior aussi. J'ai décalé quand j'étais dans le titre de coach junior. Et donc, les étapes se sont passées par elles-mêmes.
Et là, tu joues dans le nord de la France. Juste pour donner un peu une idée à nos auditeurs, comment sont les terrains de football dans le nord de la France quand tu débutes?
Ah ben, c'était pas évident. Hein. Il y avait deux choses qui étaient. On jouait souvent, et les terrains étaient bourreux. Et ça, c'est une formation aussi. Spécial. Et je me souviens d'un match en Cadet du Nord, où nous sommes allés jouer à Audaletich, dans l'est de la France, contre la Lorraine, où le temps était catastrophique. Et ce match a eu lieu, mais c'est les bonnes leçons de vie.
Beaucoup de joueurs qui sont devenus pros évoquent à un moment donné, quand ils sont en croissance, des problèmes physiques, des pépins physiques, etc. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de difficultés quand tu étais cadet ou avant d'avoir 18 ans, des problèmes de santé liés à ta croissance ou justement à au terrain un peu compliqué?
Non, je n'ai pas eu vraiment de problème de santé. J'ai évolué tout à fait normalement. J'ai grandi beaucoup sur l'année, mais ça ne m'a pas donné de problème de cartilage, de problème de genou ou autre. Je n'ai pas eu ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose, quand tu étais jeune, que tu aimais pas cher dans le football, soit à l'entraînement, soit dans le match?
Non, ce que j'aimais pas, c'était surtout de pas pouvoir jouer au foot tous les soirs dans la rue. Ça, c'est ce que j'aimais pas. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui portent un nom. Le premier entraîneur que j'ai eu, il s'appelle Jean Lechon. Ton fils a joué après, Pierrot. Ils étaient dans le même club à l'Université de l'Anversa. Et après, j'ai eu Toposki, qui était aussi un international qui était à Lille, qui est dans l'ambiance vue par mon père aussi, qui était un ancien champion de Lille.
Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même carrière si t'avais pas eu une ascendance de joueur professionnel?
Je sais pas, si on peut pas dire. Il faut de la chance. Ça m'a débuté. Je répète tout à l'heure. J'ai débuté. J'avais pas 16 ans quand j'ai débuté. J'allais avoir 16 ans une semaine après. Et j'ai débuté parce qu'il y a une engueulade avec le gauche de l'équipe type de Valenciennes, qui jouait au niveau. Et c'est le coup de chance. Ça aurait été un droitier, il aurait été droitier, peut-être de l'autre côté, ça se serait passé. On ne sait pas.
Alors justement, c'est marrant parce qu'on a eu Yannick Stopira il n'y a pas longtemps sur le programme et qui nous racontait un petit peu que lui aussi, ça c'était un petit peu des coïncidences, un peu des hasards comme ça où un joueur a été blessé, il pensait pas qu'il allait être pris, il était en train de faire ses valises, il est quand même appelé pour faire un essai, il se fait bisouter par les pros, par les vieux de l'équipe, et du coup, ça l'a rendu fou et ça l'a motivé de manière extraordinaire pour faire un match de fou, qui du coup, ils l'ont gardé, et du coup, ça a un peu lancé sa carrière. Est-ce que il y a eu des petits hasards comme ça qui tu penses ont infléchi ta carrière vers la bonne direction?
Sur leur aile, assez rapidement. Faut oublier qu'à cette époque-là, quand on rentrait chez les pros, quand on était jeune et qu'on allait à l'entraînement, alors que j'avais joué déjà quelques matchs en première avec l'équipe première, il faut taper à la porte pour pouvoir rentrer. Je montrais la tête. Il me disait, ramène-toi, je dors.
T'as 15-16 ans et tu commences à faire du foot de manière régulière. Est-ce que t'as un plan de carrière? Est-ce que t'as une idée du travail que tu veux faire?
J'imagine que le foot, c'est pas nécessairement là que t'as en tête.
L'époque qu'on parle, le foot n'était pas considéré comme un travail. C'est pas considéré comme un plan de carrière. Il y avait beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de blessures qui se font où ça a cassé la carrière des joueurs. C'était un peu différent. Ouais, je suis tombé dans la période scolaire où on changeait les maths 2 et on changeait les maths modernes. On mettait les maths modernes. J'ai dit avec mes parents, écoutez, je sais que pendant 2 ans, si je vois que ça va pas, ben maintenant, dans le gauche, je suis reperdu dedans, mais j'aurai une expérience dans ma vie et je ne serai pas déçu. Et si je peux reprendre, les études. Et donc, c'est commencer dans la tête à partir dans ce sens-là. Et puis, ça s'est avéré que j'ai joué très rapidement. Même ça m'a posé des problèmes parce qu'il y a des gars qui attendaient 2 ans, 2 ans et demi pour pouvoir jouer. Et il y a une jalousie qui s'est passée.
Comment ça se passe quand on est un petit genou et qu'on perce aussi rapidement? Est-ce que le vestiaire, il y a un côté bienveillant ou est-ce que c'est un peu un nid de vipère où il faut toujours un peu regarder derrière son épaule?
Quand je débutais? Non, au contraire, ils m'ont protégé, mais super protégé.
Tu restes à Valenciennes pendant 5 ans?
Oui.
Et tu pars à Lens, qui était, j'imagine, alors moi, je suis plutôt de l'Est de la France, hein, je suis strasbourgeois, donc je maîtrise pas trop les rivalités, dans le Nord, mais j'imagine que ça aurait pu être perçu comme un peu comme une trahison, ou je me trompe?
Non, c'était une étape de carrière, non, je me suis dans une seconde championnat de France. Ils étaient en Coupe d'Europe, Champions League maintenant. Et c'était une évolution de la carrière. J'ai été demandé, avant de jouer un peu de terrain à l'ancienne, j'ai été demandé par Saint-Etienne, je voulais faire Saint-Etienne, par Nantes, par Sochaux. C'était le Sinanouet de l'époque.
Pourquoi tu as choisi Lens alors?
Parce que j'ai de la côté de mes parents. Parce que mes parents, moi aussi, pour avoir justement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, les 2 ans que je m'étais donné, je voulais peut-être que je n'ai son lien familial qui soit là. Et je pense que c'était positif.
À ce moment-là, tu es déjà un peu pro, tu gagnes déjà de l'argent? Mais t'as pas d'argent, tu gères toi-même. Comment ça se passe justement la gestion?
J'ai eu d'argent très important sur pratiquement toute ma carrière. Ça se passe, quand j'ai mes fiches de paie que je vois, actuellement, j'ai sur les fiches de paie de Valenciennes, c'était être jardinier.
Est-ce que dans ta tête, c'est toujours, bon, voilà, il est possible que ma carrière s'arrête et que je doive retourner à l'école, ou est-ce que là, quand tu pars à Lens, tu dis, bon, bah, ça y est, c'est mon travail,
Maintenant, tu avais joué déjà avec l'équipe de France.
Alors là, tu ne dis pas qu'ils ont besoin d'un aide jardinier, tu sais que t'es quand même sélectionné pour l'équipe de France, enfin.
Ça, je le savais, oui.
Donc, ta première sélection en équipe de France. Alors, moi, d'après mes infos, c'est la Tchécoslovaquie, 9 minutes, en mars 76, et ensuite le match contre la Pologne, où là, effectivement, tu joues les 90 minutes. Et là, on a l'impression que tu t'impressionnes vraiment, puisque tu joues la Pologne, tu joues la Hongrie un mois plus tard, ensuite tu joues le Danemark. Tu disais un peu plus tôt, hein, Guillaume, que tu n'avais pas vraiment de plan de carrière. À cette époque-là, ça y est, tu es international, tu es encore vraiment tout jeune. Tu as une équipe de France qui est un peu en reconstruction. Quel est l'état d'esprit, quelles sont les attentes autour de l'équipe de France à cette époque-là?
Quand j'arrive avec l'équipe de France, je suis pas tout seul. Il y a 7-8 joueurs nouveaux qui arrivent, et donc c'est énorme pour ce groupe qui se forme, et d'autres qui sont à la porte aussi. Donc on vient avec un peu d'insouciance, avec l'envie de jouer et l'envie de faire quelque chose ensemble. Il y a l'objectif de la qualification pour la Coupe du Monde.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette campagne de qualification dans un groupe pas évident avec la Bulgarie, l'Irlande? Tu arrives à tirer ton épingle du jeu, tu joues quasiment tous les matchs. Pendant cette période, tu as ce but incroyable contre le Brésil. Est-ce que tu te projettes sur la Coupe du Monde à ce moment-là?
Match par match, on s'est aperçu qu'on n'était pas loin de la qualification. Donc après, l'adrénaline positive était là. Et donc, il y avait beaucoup moins de matchs. Hein. N'oubliez pas que tout ça, moi j'ai 53 sélections actuellement. Je crois que j'en aurais 90 à l'heure actuelle, parce qu'il y avait beaucoup moins de matchs. Tu as dit tout à l'heure que j'avais marqué 13 buts. Non, j'ai pas marqué 13 buts, j'ai marqué 21 buts. Mais quand tu jouais contre certaines nations, elles n'étaient pas la FIFA et tu comptabilisais pas les buts. C'était pour tout le monde pareil. J'étais aussi à la finition. Mais d'être à la finition, c'est une chose, c'est grâce aussi aux autres. Hein, il y avait des bons défenseurs comme Max qui étaient là, il y avait Jean-Vion qui était là, il y avait toute une panoplie de joueurs. Je pense que chez même ceux de 98, il y a certains de 98, ils auraient du mal à avoir la place dans notre équipe de 78-82.
Effectivement, c'était une sacrée équipe. 77, Brésil-France, je crois que c'est ta 10e sélection. Donc, match amical contre le Brésil, c'est pas le champion sortant puisqu'ils perdent en 74, mais ça reste le Brésil, ça reste au Maracana. Quand t'es sélectionné, est-ce que c'est un rêve d'enfant de jouer dans ce stade mythique?
On doit prendre dans l'avion, on rêve tous de jouer à Maracana. Brésil, c'est normal. L'avion avait des réflexions de savoir que ça serait super si je fais un marqué. Que moi, je viens marquer. Chacun a dit si je serais super heureux de marquer.
Match, je rappelle, hein, les auditeurs se terminent par deux buts partout et tu mets un but vraiment exceptionnel. Un but que je qualifierais, et je pense que je ne dois pas être le premier à le dire, de brésilien. Justement, au brésilien, au Maracana, match score final de partout. Est-ce que tu peux nous décrire ce but?
Quand on est rentré dans les vestiaires. Quand on est rentré dans le vestiaire, il y avait tous les casiers où il y avait des garings, pelés, il y avait des casiers. Et déjà, là, on était satisfaits, on était contents d'être là. Et on joue la première mi-temps, si on rentre dans la mi-temps avec 4-0, on n'a rien dit. Et puis, je sais pas, il y a eu le choc psychologique de M. Hidalgo, qui n'est pas rentré dedans, mais qui nous a expliqué les choses. Et puis, en deuxième mi-temps, on a repris deux jeux. On a repris, et je pense aussi que les Brésiliens se sont dit, bon, ben, c'est facile aujourd'hui. Et c'est là que nous, on a pu poser quelques cours ou quelques entailles dans celle où je marque.
Alors, je vais dire, pour les auditeurs, donc, t'essaies de décrire peut-être? Tu le décriras peut-être mieux que moi?
Ouverture de Platini entre les deux défenseurs centraux. Je les ai tournés dans le dos. Je contrôle de la poitrine et eux, ils viennent pour récupérer la balle. Je passe au-dessus des deux défenseurs, j'accélère et sans que le ballon pousse le sol, je frappe au but et je marque.
Une mine sous la barre après petit contrôle de la poitrine et petit coup du sombrero. Est-ce que tu te souviens ce qui te passe par la tête quand tu, parce que oui, ça doit être une joie difficilement descriptible.
En même temps, quand se rend compte, quand on se retrouve après le match, en plus on a eu les Brésiliens qui sont d'une chaleur extraordinaire. Il y avait pas Paolo César qui est venu nous chercher à l'hôtel. On a passé une super soirée ensemble. Et donc il y avait une atmosphère un peu plus de rugby dans ce genre de situation.
C'était pareil pour un France-Bulgarie ou
non? C'était la France-Bulgarie était qualificative, donc il fallait absolument se retrouver. C'était le dernier match et la qualification est au bout. Donc c'était différent. Et on avait pris déjà un peu de galon par rapport au match que nous avions joué quand on parle du Brésil.
Et donc là, tu enchaînes. Les matchs que tu joues, c'est que des victoires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'atmosphère autour de cette Coupe du Monde 78? Parce qu'il y a pas mal de contestations, de protestations, en tout cas autour de l'organisation de la Coupe du Monde en Argentine avec la dictature, etc. Est-ce que ça gâche un peu ton plaisir d'y aller ou est-ce que vous vous dites, nous, on est les sportifs et puis le reste, la politique, ça ne nous intéresse pas?
Nous, on s'était qualifiés, on voulait y aller. C'est sûr qu'il y avait un régime politique qui était difficile. Mais regardez maintenant ce qui se passe avec la fédération, ce qui se passe peu importe, on va pas épiloguer, mais il y a toujours ce qui s'est passé avec Jacquet à un moment donné, ce qui s'est passé avec Hidalgo à un moment donné. Quand on est français, on n'aime pas que ça marche bien. On n'aime pas. On veut absolument trouver les maîtres des grains de sable pour qu'on puisse parler autrement. Moi, je suis contre ça, et je voudrais que à un certain moment, sur l'Argentine, il y avait le régime politique et des régimes de dictature. Et donc, avec beaucoup de problèmes, et on connaissait pas. Il y avait moins de médias que maintenant. Et nous, notre but, c'était d'aller chercher quelque chose en Europe. Les joueurs.
J'imagine que t'es pas surpris d'être pris dans la liste des 16. Je pense qu'à l'époque, c'était 16 joueurs. Tu t'y attendais, cette sélection tu t'attendais à jouer à la Coupe du Monde?
Oui, sincèrement, oui. Oui, vu le parcours qu'on avait fait, j'avais joué, comme tu as dit tout à l'heure, j'avais joué pratiquement tous les matchs. Donc, oui.
Donc, 78, tu as 23 ans, gars, tu vas avoir 24 ans. Est-ce que tu te considères déjà comme un des tauliers de cette équipe?
On est tous du même âge, toute la génération au même âge, donc. On est bien ensemble, et avec pas trop de rivalité, pas trop de... Bon, ça se passe très bien, ça se passe très bien.
D'accord. Alors justement, quand t'es en Argentine, dans cette... Avec qui tu partages ta chambre, t'as ta propre chambre, comment ça se passe justement ce...
On était en chambre individuelle, on était les gens, il y avait parce que là, on était pour la tête. On avait plus l'impression d'être dans un grand collège que d'être dans un hôtel de 5 étoiles.
Ah, d'accord.
Donc ça, les choses ont aussi un petit peu changé.
Mais sur le coup, un collège où on est, soit des origines, entre guillemets, le collège où on était, il y avait deux ou trois terrains qui étaient super pour partager avec les Italiens.
Justement, l'Italie, c'est votre premier match. Et donc, tu es titulaire. Tu aides à faire marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Et qui a ensuite, je crois, été battu par les Anglais contre la France, justement, en 82.
Et qui a été battu encore. Tant que je cours, le dur.
Voilà, c'est ça. Exactement. Ce premier match de Coupe du Monde, quand t'entends les hymnes, t'es en Argentine, c'est la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui te passe par la tête?
Et on y est. C'est notre premier match. On joue contre une grosse cylindrée. Je te l'ai dit. Nous sommes dans un groupe. Tout le monde va nous manger. Et puis on démarre le match en essayant de mettre en place notre jeu. Et sur le coup d'envoi, il y a un ballon qui arrive sur nos défenseurs, sur Max, et qui donne, je crois, si mes souvenirs sont bons, à Henri Michel. Henri Michel, en même temps, comme si le ballon vient sur moi au départ. Je remets Henri Michel, qui redonne sur Jean-Marc Guillou, et Jean-Marc Guillou me lance, alors que j'avais devant moi un monstre du football italien, puisque c'était Gentile. Et que là, d'ailleurs, quand on a parlé de Mbappé, là, avec tout ça,
avec ces 37 kilomètres ou 34 kilomètres, j'ai reçu la vidéo de ce match au moins 25, 30 fois, de fans encore, et qui disent, ça n'est aussi bien que Mbappé, différemment, mais c'est sympa.
Pour les auditeurs qui n'ont pas le but en mémoire, donc effectivement, ouverture, tu enrhumes complètement Gentile. Sur l'aile gauche, centre, Bernard Lacombe, tête et but. Après, une trentaine de secondes.
Un jeu de vitesse et d'anticipation. Pourtant, tu jouais à Lens. Et quand tu cites ce but, tu cites Maxime Bossy, Sauvry Michette et Nantais. Est-ce que c'était pas le jeu Nantais qui passait pour toi cette période-là plus que le jeu en soi?
Non, on peut pas dire ça. C'est une équipe de France qui conjugue avec des joueurs de plusieurs clubs. Nantes était en haut du tableau à cette époque-là. Et c'est tout à fait normal que, on se retrouve avec plusieurs Nantais dans l'équipe, hein.
Oui. Mais toi, justement, vu ton jeu, à cette époque-là, et c'est pas sur l'équipe de France, est-ce que t'avais pas un jeu plutôt pour le FC Nantes? C'est-à-dire, pourquoi t'as pas signé au FC Nantes qui correspondait à ton jeu et tu es resté à Lens?
Parce que ça s'est fait comme ça. Le fait que là, j'avais fini deuxième du championnat et que je voulais la Coupe d'Europe et qu'il fallait absolument que je vienne.
D'accord. Et t'as pas eu de regret de pas connaître le FC Nantes alors qu'on peut correspondre un peu à ça ou?
Pas spécialement. Parce que j'ai connu dans ma carrière des super clubs, des grands clubs. Donc, comme nous, je suis mis dans l'enfer. Et partout. Je suis passé, j'ai une adaptation très rapide. Il faut pas oublier qu'à l'époque, l'adaptation était plus difficile que maintenant, parce qu'il n'y avait pas les terrains en courant qu'il y a maintenant. Il y avait pas toute cette, on s'entraînait alors souvent sur des terrains qui étaient pas de niveau pour le professionnel, mais il y avait du jeu, il y avait une belle équipe.
Juste pour donner un peu de contexte, Guillaume est un grand fan du FC Nantes. Donc pour lui, tous les meilleurs joueurs auraient dû jouer à un moment ou à un autre au FC Nantes. Donc ça explique un peu cette insistance malsaine autour du FC Nantes. Je venais juste un peu expliquer au délai du contexte. Donc premier match finalement perdu par la France 2-1. Je pense que vous êtes tous des gagneurs dans cette équipe. Personne ne devait être content. Mais est-ce que vous vous dites, on a quand même le niveau pour cette Coupe du Monde?
On s'aperçoit qu'on rivalise avec les plus grosses nations du football mondial de cette époque. Et en réalisant ça, ça nous a permis de prendre conscience, sachant très bien que notre qualification elle serait très difficile, puisqu'on a l'Argentine, le pays qui reçoit, et l'Italie dans notre groupe.
Voilà.
Donc la Hongrie qui a fait plusieurs coups.
Exact. Donc le deuxième match, 4 jours plus tard, contre l'Argentine. De nouveau, une défaite d'un seul but. Donc, vraiment, ça rejoint ce que tu dis, que vous sentez qu'il n'y a quand même pas un gros écart avec les gros cylindrés, notamment l'Argentine qui joue à domicile, qui va la gagner, cette Coupe du Monde, justement. Et donc, le dernier match, alors là, je crois qu'à ce moment-là, vous savez déjà que vous êtes éliminé.
Oui, on est éliminé. On perd plus rien contre l'Argentine sur un pénalty. Qui peut être discutable, oui. Après, moi, j'ai une occasion de but sur une ouverture au jeu Messi, sur le côté du poteau, le côté extérieur du poteau. C'est la même occasion que le but que j'ai contre les Pays-Bas pour la qualification de la Coupe du Monde 82. C'est exactement la même occasion où de l'autre côté, ça rentre. Ça fait partie de la loi du sport, de la chance d'un côté, de la chance aussi. Et donc, il faut vivre avec et peut-être que si on inverse les choses, que ce match contre l'Argentine se passe 4 ans après, peut-être que là on gagne le match parce qu'on aurait certainement eu un peu plus d'expérience.
Alors justement, quand tu as cette occasion contre les Pays-Bas, est-ce que tu as un flash sur le match de 78?
Non, si. Quand j'ai vu, quand on revoit les actions, ça reste à peu près dans les mêmes critères.
Ce match contre la Hongrie en 78, qui est un petit peu rentré dans la légende, parce que ils avaient joué avec des maillots du club local.
Il y a une erreur de couleur de maillot. Et donc, comme c'était l'Hongrie qui nous recevait,
c'était à la de porter ses maillots et nous, on avait la même couleur. Et donc, ça a été assez simple que ça et ce sont des pêchés là, d'aller chercher chez les pêcheurs du coin qui avaient une équipe. Oui.
Est-ce que tu l'as encore ce maillot-là?
Non, il n'a pas échangé.
Donc, à la fin de cette Coupe du Monde 78, quelle est l'ambiance autour de l'équipe de France? Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'on sent qu'il y a une vague qui est en train de se créer?
Oui, que Hidalgo s'est mis au travail pour préparer déjà ce qui allait suivre. Et donc, ce qui préparait automatiquement, il y avait un groupe qui s'était soudé, il y avait un groupe qui était soudé et qui avait fait plaisir aux Français. Hein. Et donc, parce qu'il y avait du jeu, il y avait de l'innocence, peut-être, mais il y avait du jeu. Et c'est peut-être pour ça que c'était génération ensemble, on est resté 10 ans ensemble.
Et donc, en club, avant qu'on parle de ton transfert à l'OM, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce match mythique, il me semble, hein, ça fait partie des gros matchs du Racing Club de Lens en Coupe d'Europe, contre la Lazio, en novembre 77, donc c'est avant la Coupe du Monde, on fait un petit retour en arrière. Je crois que c'est deuxième tour de Coupe d'Europe, ou 16e de finale, il me semble.
Troisième
tour. Donc, vous perdez 2-0, il me semble, à Rome. Et donc, retour à Bollaert, et là, tu fais un match incroyable.
Ah bien. Donc, même j'ai joué à Rome, en perdant notre arrière latéral titulaire, où il a dû sortir parce qu'il avait même allé à l'hôpital pour passer toute sa radio parce qu'il avait perdu connaissance. Et donc, on perd 2-0 chez match, on perd 2-0 contre une équipe où il y a les Catenaccio et les Italiens aussi qui sont les grandes nations de football à cette époque. Mais en deuxième mi-temps, on arrive tout de même à se rendre compte qu'on a une possibilité. Il y a un truc qui s'est passé, qui est passé extraordinaire, qui était programmé dans la liste ouverte. Après le match, il m'a dit, tous dans ma chambre. On y va tous. Il nous dit, c'est le match au retour. On peut faire quelque chose. Moi, j'étais le premier d'accord sur cette intervention. Parce que, on n'est pas passé à travers. On a eu des moments difficiles, mais on n'est pas passé à travers. On a eu des moments positifs. Ces moments positifs, il faut penser à ça. Et me rester jusqu'à peut-être 1h30, 2h, aujourd'hui matin, je me retrouve à discuter du match retour qu'il y allait avoir.
Et ça, c'était le jour même de la défaite.
Le soir même. C'était à Rome.
Et donc, le match retour?
Le match retour, on débute le match, on sent très bien qu'on a de retard. Chose miraculeuse pour nous, parce que ça, on faisait jouer égal avec les Italiens. Mais il n'y avait pas, dans un round d'observation. Au bout de 20 minutes de jeu, il y a une prime de courant. On rentre dans les vestiaires, on se reprend un peu par rapport en se disant, on fait jouer gain avec les Italiens, on peut gagner ce match. En cas de qualification, on peut gagner ce match. Et on rentre, et voilà, 4-5 minutes avant la mi-temps, je marque le premier, et on rentre à la mi-temps en ayant un but de retard. Donc, il y a une adrénaline positive qui se met dans tous les joueurs, et la confiance, elle est retrouvée. On rentre en deuxième mi-temps, les Italiens, certainement, se sont fait charbonner et ont été mangés dans leur vestiaire. On fait jouer égal avec les Italiens. Même, peut-être que eux, ils sont un peu plus d'offensifs qu'en première mi-temps. Et sur la corner, ou à contre contre nous, moi, j'étais revenu à peu près à 25-30 mètres des buts pour pouvoir, au marquage, pour marquer les joueurs qui étaient à la retrouver, dégage le ballon de la tête, c'est moi qui le récupère. Et quand je récupère, je fais le contrôle dos à au but où on devait marquer. Et au lieu de remettre le ballon, je me retourne très vite et
Là, j'ai tout un champ devant moi, j'ai des défenseurs qui sont peut-être 15 mètres, qui reculent. J'avance à gauche, et j'étais tout seul. Pratiquement tout seul. Je sentais que mes coéquipiers allaient arriver. J'étais tout seul. Et je venais faire à peu près 60, 70 mètres sur un terrain boueux, la pluie. Et là, j'ai dit, je prends ma chance. Et je frappe, et la balle arrive dans les gardes. Là, on se retrouve 2-0, le reste, on connaît ici.
Le match va en prolongation. Tu mets un hat-trick, dont un troisième but vraiment incroyable. Petit crochet, but enroulé dans le petit filet. Et donc, score final 6-0. Un match mythique pour le Racing Club de Lens. Et vous passez le tour suivant.
Moi, je voulais mettre Debourg avec Mike de l'Est. Et malheureusement, Mike Debourg, l'accueil a été catastrophique. Ils nous ont emmerdés, il n'y a pas d'autre mot. Et sur tous les points. Et là-bas, on perd. Et quand on rentre chez nous, on tape trois fois sur le bouton et deux ou trois fois sur le bouton, ce qui nous permet de pas pouvoir passer cette compétition.
Alors, à l'époque, est-ce qu'il y avait, il y a toujours des petites histoires quand les équipes jouaient dans les pays anciennement communistes. Paraît-il, les joueurs étaient un peu toujours suivis, il y avait toujours un garde-chiourme avec eux, il y avait toujours des petits problèmes administratifs, etc. Est-ce que ça a été aussi ton expérience?
Il y avait des gros problèmes administratifs, je me suis exprimé. Quand on a été joué en Bulgarie, le stade était à 10 minutes, ils nous ont mis 45 minutes de bus avec le chauffage au fond. C'était leur façon à eux. De soutenir leur équipe.
Et ça arrivait donc systématiquement, j'imagine, toujours dans ce genre de régime.
Vous connaissez la musique, vous fallait s'y attendre.
Comment tu faisais pour éviter les défenseurs et la rugosité des défenseurs de l'époque, qui était quand même un peu supérieure à celle de maintenant?
Moi, j'ai tout de même une réputation de ne pas me laisser faire et de changer mes jobs. Et donc, j'avais pas peur de ça. Il fallait se faire respecter. Donc, le terme, mon caractère, on ne laissait pas abattre les défenseurs sur 10 ans, 8 jours. Eh bien, ça faisait partie, c'est vrai, quand c'est, donc, il y a un calion quand on jouait contre Baeza, par exemple. Celui-là, c'était un peu
pépin. Est-ce que t'as des anecdotes, je te souviens justement de duels avec des défenseurs un peu rugueux? Comment t'as réussi à t'imposer dans ce cas de figure particulier?
Oui, j'en ai revu un, on allait jouer Nîmes avec Kader Firon comme entraîneur. Ou de chaque côté, il y avait deux chauffeurs, qui étaient des mecs qui aujourd'hui, on s'est rencontrés, c'était un mec adorable, mais que, à cette époque-là, c'était autre chose. Donc, tu rentrais, t'allais jouer à Bastia, c'était chaud, c'était une petite guerre, hein.
Et toi, je comprends que tu étais plutôt, t'étais ok pour aller dans l'affrontement et pas te faire marcher dessus.
Ah oui, moi j'avais cette inconscience-là, mais je me souviens d'un joueur qui s'appelait Camis, qui était grand Camis, son nom, qui était derrière gauche à Nîmes. Mm-hmm. À un moment donné, je me retrouve sur le côté droit. Et deux fois, je prends le ballon, avec la vitesse, je le prends. Il revient vers moi, il me dit, petit, tu me fais jamais plus ça. Tu me fais jamais plus ça, sinon, ça va être grave pour
toi. Et alors, qu'est-ce que t'as fait?
Ben, je tourne à gauche. Oui, de l'autre côté à gauche, il y avait le même. Il était plus jeune, donc il m'a pas dit ça.
Il le pensait, mais il l'a pas dit.
Voilà.
Digression totale, hein. Mais quand tu vois la façon dont les attaquants maintenant sont protégés, il y a la VAR, etc. Donc il y a comme une certaine plus d'équité, on va dire, où il y a moins de scandales d'arbitrage. Et quand tu vois les sommes d'argent, etc., on est vraiment passé dans un système complètement différent. Quand tu vois tout ça, est-ce que tu as l'impression que vous avez d'avoir fait le même métier, au final, que les footballeurs maintenant?
Enfin, oui.
Il y a une personne qui m'a dit un jour, mais quelle vie extraordinaire tu as, tu as eu au moins 400 000, toi. Qu'est-ce que j'ai, l'argent est une chose. C'est vrai que beaucoup de notre époque, on aurait aimé être cette époque-ci pour le point de vue financier, pour notre enfant, pour notre famille, ou autre. Pas pour nous. Parce que nous, on a vécu des choses extraordinaires. Mais pensez aussi que nous, quand on est arrivé, ça a un peu augmenté par rapport à ce qui était derrière nous, les copains, les centaines, les Y ou Z. C'est fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Vous avez l'impression, de la façon dont vous parlez, c'est de voir ça approcher à mes parents, de m'avoir mis au monde trop tôt.
Je pose la question parce que je sais que Platini parle souvent de ce problème. C'est quelque chose qui, je crois, le frustre beaucoup.
Oui, cette anecdote. C'est une chose qui le frustre parce que, quelque part, quand il se rend compte de ce qu'il a gagné dans sa carrière et son niveau, quand il se rend compte ce que gagnent actuellement les footballeurs pour un niveau bien moindre, il dit effectivement qu'il est né un peu trop tôt.
Oui, mais c'est comme ça, c'est la vie, ça. C'est la vie. Michel, est-ce qu'il gagne en un an, mais Mbappé le gagne en 3 semaines ou 1 mois.
Oui, très, c'est ça.
Donc, quand même, belle campagne, on va revenir attaquer un club. Donc, belle campagne avec le FC Lens. Et pourtant, tu pars à la fin de l'année. Tu seras resté qu'un an à Lens.
Horrible. Je suis souvent parti des clubs parce que, pour des raisons financières, j'étais un des joueurs qui était vendable. Et donc, j'ai choisi et de voir partir à l'étranger.
Alors, tu pars à l'étranger en 80, donc tu restes 2 ans à l'OM.
Et... 2 ans de temps. J'ai connu 5 entraîneurs, 3 présidents, je crois. C'était une mouvance énorme, des changements énormes à Marseille. Marseille restera Marseille. C'est un club de cœur. Mais c'était à ce moment-là, c'était très, très difficile. Il y a eu d'énormes problèmes financiers. Jusqu'à nous demander à Marius et à moi de si on pouvait laisser 3 mois de salaire pour payer les salaires des joueurs. Est-ce qu'on a accepté?
Demander ça à un aide jardinier, c'est quand même un peu.
Mais je n'ai plus qu'un aide jardinier là.
Et sur ta fiche de paye, c'était quand même marqué footballeur, j'espère.
Oui, il était marqué footballeur.
Non, mais donc tu as accepté quand même. C'est faut quand même le dire.
On n'avait pas accepté avec Marius.
Bah, ça préparait un peu la Turquie
quelque part. Hein. C'était un peu
Comment
te préparer un peu pour la Turquie parce que c'est un phénomène qui normalement est très turc de pas payer tout de suite les piges et de demander aux joueurs.
Le chute en Turquie, c'est jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu un problème de paye.
Ah, c'est
un club de rêve.
Je suis sûr qu'on va pouvoir en parler. Donc, tu pars en Belgique. Tu restes 6 mois.
En Congo, il y avait un mécène qui m'avait chagriné. Et ce mécène s'est engueulé avec le président et est parti. Et là, c'est comme ça. Je suis parti avec les meilleurs buteurs de la Belgique. Hein.
Chaque fois que tu pars des clubs, tu performes. On peut pas dire qu'il y a eu un quelconque échec sportif, mais tu donnes l'impression, en tout cas, à une époque où c'était pas vraiment le cas, d'être un joueur moderne dans la mesure où tu voulais pas te laisser faire. Est-ce que c'est correct?
Ce qu'il faut penser, c'est que quand j'étais à Marseille, il y avait Dortmund qui voulait absolument que je vienne. Il y avait un grand entraîneur à Dortmund, cet instant, et qui m'a fait venir, avec qui me voit à Marseille, et Stuttgart aussi, son entraîneur, il me voit à Marseille. Et quand je suis parti de Bruges, sur Strasbourg, qui venait de perdre Roland Weiner avec l'équipe de France d'une blessure, et qui avait droit à prendre un joker, quand je suis parti là-bas, président André Bock, qui était président de Strasbourg à cette époque-là, j'ai dit oui, mais j'ai déjà signé avec Stuttgart pour l'année.
Strasbourg, tu restes là-bas 4 mois.
6 mois.
6 mois, d'accord, pardon.
J'arrive au mois de fin octobre.
D'accord. Alors, si tu devais comparer les publics, c'est une question difficile, hein. Comparer Bollaert, le Vélodrome et la Méno, quel serait ton classement?
Bollaert. Deux vélos. Mais je mets à égalité presque ces deux-là, parce que c'est, et après, Strasbourg, c'est différent.
D'accord.
Mais Strasbourg, on a un public chauvin, et qui est derrière leur équipe et qui nous soutient énormément la route.
Alors là, tu pars à Stuttgart et tu fais deux très bonnes saisons. Il n'y avait pas eu beaucoup de à cette époque-là, de joueurs français qui s'exportent et qui s'exportent avec succès. Est-ce que tu penses que t'as ouvert la porte aux générations d'après? Pourquoi tu penses que tu as réussi là où d'autres ont échoué, où d'autres n'ont pas osé franchir le pas?
Pendant 6 mois que j'étais à Marseille, ça s'est passé avec Dortmund, j'avais appris l'allemand, une optique que j'avais envie de tenter, parce que la Bundesliga était un championnat primé au niveau mondial, il y avait des grosses cylindrées. Réussir en Allemagne, oui, ça m'a motivé. J'ai réussi à Stuttgart, on est terminé. Il y avait Bayern de Munich qui était toujours au-dessus du lot, Hambourg à cette époque-là, et on a terminé juste derrière eux. Après ça, j'ai signé un meilleur joueur étranger de la Bundesliga. Donc, c'était quelque chose qui était une belle récompense pour moi.
Alors justement, entre-temps, puisqu'on parle d'Allemagne, il y a la Coupe du Monde 82, que, bon, évidemment, c'est une Coupe du Monde dont on parle toujours, 40 ans plus tard. On en a parlé récemment, on a eu Jean-Luc Ettori sur le programme. Quelles sont les attentes pour cette Coupe du Monde 82? Est-ce que, alors, récemment, c'était sur un autre podcast, où il disait que le parcours des Bleus était un peu une surprise. Toi, qui étais un des piliers maintenant, 4 ans après avoir joué la Coupe du Monde 78, tu continues à être appelé, tu continues à être titulaire, tu continues à marquer. Quelles sont tes attentes personnelles et quelles sont les attentes de l'équipe pour cette Coupe du Monde en Espagne?
Passer le groupe.
Ok, donc passer le groupe.
Et après, jouer le match. Mais il y avait cette pensée de passer le groupe, il y avait tout de même une sécurité parce qu'on s'était qualifié de façon énorme sur les matchs de qualification.
Voilà, c'est la fin de notre première partie de notre épisode du podcast des légendes consacré à Didier Six. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie avec au programme le parcours des Bleus au Mondial 82. Séville, bien entendu, la demi-finale contre la RFA, mais aussi Galatasaray et bien d'autres sujets passionnants.
Tout de suite, un petit teaser de cette deuxième partie que vous retrouverez donc la semaine prochaine.
Penalty, moi je vais dire non, parce que j'étais blessé. Parce que j'avais pris à coup et j'étais en train de me soigner. Et je dis non à Michel. Et lui revient et il me dit une fois 7e. Il y a 120 minutes de jeu, c'était... J'avais pris un coup, que le Schumacher sur un premier mi-temps qui me faisait mal, je vais pas tirer le penalty, j'étais pour finir Michel et me voir. Je lui ai dit, mets-moi dans la liste. Et voilà, ça s'est passé comme ça. C'était le penalty, je le rate pas complètement, que je loupe. Mais pourquoi j'ai pas fait comme la veille, quand on a été devant la lutte pour s'entraîner au penalty, j'ai pas frappé de tête très fort. Pourquoi? Je sais pas. C'est bon. Si j'avais mis plus fort, peut-être que on aurait gagné cette coupe.